Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Vivre une aventure, ça n'est pas la même chose qu'avoir une aventure. Ou qu'avoir eu une aventure. Car l'aventure se conjugue. Elle est aussi, peut-être même avant tout, une certaine modalité de notre rapport au temps. Alors l'aventure est-elle un risque pris par le temps, une mise en danger de l'écoulement temporel? Pour ce dernier temps aujourd'hui de notre série sur l'aventure, c'est le philosophe Vladimir Jankélévitch en personne qui vous répond.
L'aventure n'est pas un danger pour la philosophie, c'est un danger pour les hommes d'État, peut-être pour les ministres des Finances par exemple, mais pour les philosophes pas du tout, étant donné qu'ils ne savent pas eux-mêmes très bien où ils vont, et ils partent en route, ils se mettent en route, ils prennent leur bâton de pèlerin et ils vont, on sait qu'ils vont, n'est-ce pas, ils vont, ils sont comme héros selon Platon. Oui. Platon dit dans Le Banquet, il fait dire par Diotime, que l'amour est ites, ça veut dire celui qui marche, celui qui va, mais où va-t-il, il n'en sait rien, personne ne le sait, mais on sait qu'il va, comme sur des routes, comme un cheminot, NEAU, n'est-ce pas? Oui. Donc on ne fait pas exception du but de ce voyage. On sait simplement qu'il est en route. Nous sommes en route. Bien, la philosophie, c'est un peu comme ça. D'ailleurs, ce qui nous importe à nous, ce n'est pas Sophia, la sagesse, à laquelle personne n'est arrivé, c'est l'amour de cette sagesse, Philosophia. Oui. Nous sommes à sa recherche, donc nous ne l'avons jamais trouvé.
L'aventure, c'est l'aventure.
L'aventure, c'est l'aventure.
Bonjour Laure Barrias.
Bonjour Adèle Van Rett.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes doctorante à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous travaillez sur Jankélévitch, entre autres. Et c'est donc avec vous que nous allons lire ce texte de Jankélévitch qui s'appelle « L'aventure, l'ennui, le sérieux » qui a été publié aux éditions Flammarion cette année avec une présentation de bibliographie à laquelle vous avez contribué en compagnie de Pierre Albanguin, Follo et Frédéric Worms. Et ce texte, disons-le d'emblée, figure au programme des prépas scientifiques.
Oui.
Donc au programme du concours qu'ils vont passer en juin prochain. Le thème, c'est l'aventure, donc c'est d'ailleurs à eux que cette semaine sur l'aventure est dédiée. On a parlé de l'Odyssée et donc d'Ulysse lundi dernier, de Conrad au cœur des ténèbres mardi. Et aujourd'hui, ce texte qui semble être fait, si ce n'est pour une émission de radio, du moins pour être étudié en classe prépa, tellement il est pédagogique et didactique, non ?
Ah oui, c'est une merveille de dissertation en fait. Les trois chapitres se répondent comme des parties. On a la troisième partie sur le sérieux qui va venir comme une synthèse dépasser les deux premiers moments. Donc oui, c'est absolument le modèle d'une dissertation.
Enfin, vous dites ça, ça va pas donner forcément envie de lire quand on dit que c'est une dissertation. Il faut savoir que pour Jankélévitch, ça change avec son ton habituel qui est d'avoir, on l'a entendu en début d'émission, cette voix qui ne s'arrête jamais de parler, qui monte, qui décrit beaucoup. Là, l'avantage, c'est qu'on a aussi cette légèreté et cet humour très présent chez Jankélévitch, mais avec une grande clarté d'expression.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, je pense qu'on l'entendra peut-être tout à l'heure, c'est un texte qui est très drôle. Il y a des passages qui sont très très drôles. Et donc, effectivement, c'est, disons, la dissertation dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire la clarté, l'efficacité, sans ses inconvénients, c'est-à-dire une certaine lourdeur, un certain formalisme, ce qui n'est pas du tout le cas dans ce texte.
Alors pourquoi l'aventure en particulier intéresse-t-elle Jankélévitch? Johnny Hallyday chantait l'aventure, le courage c'est l'aventure, c'est d'ailleurs une phrase que Jankélévitch aurait pu écrire, hein, puisque le courage a son mot à dire, enfin à partie liée avec l'aventure.
Ouais, absolument. Alors pourquoi l'aventure intéresse Jankélévitch? D'abord parce que c'est un grand philosophe du temps. C'est un grand philosophe du temps et de la morale. Donc c'est un philosophe qui pense les rapports entre le temps et la morale. Et donc l'aventure va être présentée, tout comme l'ennui et le sérieux, comme des dispositions, comme des modalités de ce rapport au temps. Et donc l'aventure, effectivement, d'un point de vue philosophique, c'est un objet qui a une dignité quand même assez secondaire. Quand on pense à des objets philosophiques, on peut penser plutôt à l'être, à l'essence, à l'existence. Mais l'aventure apparaît peut-être comme étant un peu résiduelle individuelle. Et justement, c'est un des intérêts de la pensée de Jean Kalevitch de donner une dignité philosophique à des objets qui semblent résiduels, marginaux. Et donc, l'aventure est présentée effectivement comme une demi-forme de vie, comme quelque chose qui a un intérêt très important dans la vie d'un sujet.
Puisqu'on s'adresse aujourd'hui en particulier à des étudiants qui sont en classe prépa, est-ce que on peut partir du principe que peut-être certains d'entre eux ont découvert Jean Kalevitch le mois dernier quand ils sont rentrés en classe prépa? Est-ce que vous pouvez nous présenter Jean Kalevitch? Comment est-ce que vous le présentez à quelqu'un qui ne sait pas qui c'est?
Oui, bien sûr, surtout qu'en fait, quand on connaît Jean Kalevitch, on peut aussi assez mal le connaître finalement. C'est un philosophe du XXe siècle, hein, dont la vie a vraiment traversé tout le XXe siècle et toutes ses épreuves, qui est né en 1903, qui est mort en 1985, qui s'est toujours situé en marge par rapport au mouvement philosophique de l'époque, c'est-à-dire que Jean Kalevitch ne peut pas véritablement s'apparenter à la phénoménologie. Évidemment, il y a des rapports, et d'ailleurs, on le verra un petit peu dans l'aventure L'ennui le sérieux, c'est aussi une description phénoménologique de nos états de vie, nos états
de... Là, vous employez un terme qui va faire peur aux élèves en prépa, parce que la phénoménologie est un courant particulier de la philosophie.
C'est vrai, absolument. Alors, ils peuvent être soulagés, puisque Jean Kalevitch n'appartient pas à la phénoménologie, donc c'est parfait. C'est aussi un philosophe qui prend ses distances avec tous les ismes, en fait. C'est pas un philosophe qui s'apparente directement à l'existentialisme, pourtant c'est une philosophie de l'existence. Donc c'est une pensée qui est absolument indépendante, irréductible à toutes les catégories qu'on voudrait poser sur elle. Donc c'est une façon merveilleuse d'entrer dans la philosophie du XXe siècle, parce que c'est justement y entrer de manière tout à fait singulière et sans école, sans doctrine qui s'y rapporte.
Et Jean Kalevitch était l'élève de Bergson,
okay, oui,
il a consacré
absolument.
Un ouvrage merveilleux.
Absolument, qui est un ouvrage magnifique, et tout à fait, effectivement, Jean Kalevitch est d'ailleurs un des plus grands disciples de Bergson, bon disciple, mais aussi dans la relation conflictuelle qu'il peut y avoir entre un maître et un disciple. Oui, absolument, s'il fallait le lier à une doctrine, évidemment, ce serait quand même plutôt celle des philosophies de la vie, on va dire, et du bergsonisme.
Donc l'avantage de ce texte, l'aventure, l'ennui, le sérieux, c'est qu'on peut le lire sans avoir jamais rien lu de Jean Kalevitch.
Oui, absolument. Tout à fait. On peut commencer à la première page et on est... Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça aussi que Jean Kalevitch l'a conçu. Dans sa correspondance, il parle de ce livre comme étant un petit livre. Et donc, il situe aussi en marge par rapport à ses grands livres, ces deux grands livres qui sont Le Traité des Vertus, qui est donc une très grande œuvre de philosophie morale, et puis Philosophie première, qui est là pour le coup un traité métaphysique et qui est, je pense, plus difficile d'accès. Et donc l'aventure, l'ennui, le sérieux, c'est un endroit parfait pour rentrer dans son œuvre.
Eh bien allons-y, sans plus attendre, voici le début de ce texte interprété par le comédien Yvan Morane.
L'aventure, l'ennui et le sérieux sont trois manières dissemblables de considérer le temps. Ce qui est vécu et passionnément espéré dans l'aventure, c'est le surgissement de l'avenir. L'ennui, par contre, est vécu plutôt au présent. Certes, l'ennui se réduit souvent à la crainte de s'ennuyer, et cette appréhension qui fait tout notre ennui est incontestablement braquée vers le futur. Néanmoins, le temps privilégié de l'ennui est bien ce présent de l'expectative qu'un avenir trop éloigné, trop impatiemment attendu, a vidé par avance de toute sa valeur. Dans cette maladie, l'avenir déprécie rétroactivement l'heure présente, alors qu'il devrait l'éclairer de sa lumière. Quant au sérieux, il est une certaine façon raisonnable et générale, non pas de vivre le temps, mais de l'envisager dans son ensemble, de prendre en considération la plus longue durée possible. C'est assez dire que si l'aventure se place surtout au point de vue de l'instant, l'ennui et le sérieux considèrent le devenir surtout comme intervalle. C'est le commencement qui est aventureux, mais c'est la continuation qui est, selon les cas, sérieuse ou ennuyeuse. Il s'ensuit naturellement que l'aventure n'est jamais sérieuse, et qu'elle est a fortiori recherchée comme un antidote de l'ennui. Dans le désert informe, dans l'éternité boursouflée de l'ennui, l'aventure circonscrit ses oasis enchantées et ses jardins clos, mais elle oppose aussi à la durée totale du sérieux le principe de l'instant. Redevenir sérieux, N'est-ce pas quitter pour la prose amorphe de la vie quotidienne ces épisodes intenses, ces condensations de durée qui forment le laps de temps aventureux?
Pour réfléchir à l'aventure, Laure Barrias, pourquoi Jean Kélévitch a-t-il besoin de la distinguer ou de la comparer, selon, avec l'ennui et le sérieux?
Oui, alors d'abord pour en signaler la singularité, en fait. D'abord pour arriver à dire ce qu'elle est, on va d'abord dire ce qu'elle n'est pas. Et par rapport aux attitudes, aux dispositions temporelles que sont l'ennui et le sérieux. Et donc c'est par ce critère temporel qu'on va se rapporter à l'aventure et qu'on va arriver à dire spécifiquement ce qu'est une aventure. Et on va voir que ce qu'est une aventure, pour Jean Kélévitch, c'est pas du tout ce qu'on entend au sens commun comme une aventure.
Donc c'est d'abord un rapport au temps.
Absolument.
Dit-il.
Ouais, c'est une disposition temporelle, c'est une disposition existentielle de se rapporter au temps. C'est-à-dire que ce qui va faire une aventure, ce sera pas son contenu, ce sera pas les péripéties, ce sera pas un rapport à l'action ou à l'espace, ce sera un rapport au temps. Donc ça, c'est déjà, et d'entrée de jeu, un déplacement conceptuel qui est très important. Faire passer l'aventure d'une catégorie de l'action à une catégorie du temps, il faut quand même du talent pour le faire et pour le faire si bien.
De l'audace, oui. Et en effet, il va distinguer assez vite l'aventurier de l'aventureux.
Oui.
L'aventurier, c'est Indiana Jones.
Exactement. L'aventurier, c'est celui dont l'aventure, en fait, est la carrière. C'est tout ce qui est lié à un projet qui est matériellement défini. C'est-à-dire l'aventure qui est une forme close, où on sait très bien quel est le projet, ce qu'on va vouloir en faire, ce qu'on veut en tirer. Il y a vraiment un rapport utilitariste, en fait, d'une certaine façon, à l'aventure pour l'aventurier. Que ce soit dans le cadre d'une carrière ou dans celui d'une croisière, par exemple, qui est un exemple qu'utilise Jean Kélévitch avec beaucoup d'humour, comme étant évidemment le parangon de la fausse aventure, en fait. La croisière, on sait très bien qu'il ne va rien se passer.
Et l'aventureux, quant à lui, au contraire?
L'aventureux, quant à lui, évidemment, c'est celui qui s'offre à la futurition, ce que Jean Kélévitch appelle la futurition.
Ouais. Vous avez dit que Jean Kélévitch n'employait pas de barbarisme, mais bon, là, celui-là, il faut le définir.
Non, alors, j'ai dit qu'il ne s'apparentait pas à beaucoup de ismes lui-même, oui. Mais sa prose crée justement beaucoup de termes qui sont un petit peu rares ou qu'on ne rencontre pas. Rarement ailleurs justement que dans ses œuvres. Et donc l'aventureux, c'est celui qui s'offre à la futurition, qui est donc différent, qui a un rapport différent au futur. C'est-à-dire que la futurition, c'est ce qui est en train d'advenir, ce qui va advenir, mais ce qui n'est pas, ce qui est encore mouvant, dynamique, qui n'est pas fixé. C'est le futur en train de se produire, la futurition. Donc quand on dit le futur, effectivement, c'est un futur en général auquel on se rapporte avec une certaine certitude, alors que la futurition, c'est justement l'incertitude absolue de l'avènement, de ce qui va pouvoir se produire et advenir.
Là, c'est très important de faire une autre distinction entre avènement, vous l'avez dit, et événement.
Oui.
L'avènement, c'est ce qui est sur le point d'arriver. Un événement arrive, c'est presque un objet qu'on peut pointer du doigt. Or, ce qui advient, l'avènement, est toujours en train de se faire.
Oui, absolument. L'événement, en fait, il est déjà là, il s'est déjà produit. L'événement, il est déjà dans du présent ou éventuellement dans une forme de passé. Alors que l'avènement, c'est ce qui va se produire. L'avènement, c'est ce que la futurition va produire. Le futur peut produire un événement, mais l'événement est déjà, d'une certaine façon, déjà là, en fait.
Jean Kélévitch écrit donc dans le texte qu'on a entendu, ce qui est vécu et passionnément espéré dans l'aventure, c'est le surgissement de l'avenir. Le lexique lui-même désigne ce qui est propre à l'aventure, à savoir le terme même de surgissement. C'est pas que l'avenir arrive, c'est qu'il surgit.
Exactement, oui, c'est ce qui est de l'ordre de l'imprévu, de l'imprévisible en fait. L'aventureux, c'est celui qui justement va accepter, consentir. Ce que Jean Kélévitch appelle le consentement à la futurition, c'est celui qui va se laisser emporter par la futurition, alors que l'aventurier, évidemment, est celui qui va faire des plans, en fait, qui va prévoir, qui refuse en fait l'imprévisibilité du futur. Enfin, de la futurition, plutôt.
Donc, l'aventureux, en fait, c'est celui qui prend des risques.
Ouais, absolument. Et qui prend le risque du futur, enfin le risque du temps en fait.
C'est-à-dire le risque de... on prend toujours le risque du temps.
Oui, mais en fait on peut prévoir, on peut se rapporter à ces risques-là dans une durée en fait. C'est ça.
Des projets.
Oui, c'est ça. Quand on fait des projets très précis, comme par exemple la réussite d'un concours, c'est rare de le vivre comme une aventure. Selon Jean Kelevitch, on le vivrait plutôt comme une épreuve du sérieux, parce que c'est un moment dans une vie qui s'intègre dans un déroulement qu'on a pensé, qu'on a conçu. Alors que vivre un concours comme une aventure, c'est déjà beaucoup plus difficile. C'est possible hein, pour Jean Kelevitch, évidemment, puisque c'est un rapport au temps. Donc si vous vivez l'imminence de ce concours comme quelque chose qui va pouvoir charrier une imprévisibilité absolue, ça peut être une aventure.
Oui, ça peut rendre beaucoup plus agréable quelque chose qui est source, au contraire, de tension. Vous avez employé le terme de sérieux, alors peut-être on va y rester un moment, puisque Jean Kelevitch définit évidemment ce qu'il entend par sérieux. En quoi est-ce que le sérieux s'oppose à l'aventure ?
Alors le sérieux, c'est en fait la façon que le sujet a de se rapporter à la totalité de son existence. C'est-à-dire que c'est un rapport au présent qui est sérieux, c'est-à-dire que j'envisage le présent pour ce qu'il est. C'est-à-dire non pas simplement comme le résultat du passé ou comme simplement ce que le futur va produire, mais comme véritablement ce présent. Ce présent qui est un moment, qui est dans un moment, dans une durée, mais une durée qui est plutôt créatrice. Hein. C'est pas du tout une durée comme l'ennui qui va être un intervalle qui n'en finit plus, qui n'avance pas. Dans le sérieux, il y a une durée, mais une durée créatrice. Il y a une durée qui progresse.
Et ce sérieux, est-ce qu'on peut le comparer à, disons, un usage ordinaire du sérieux quand on dit quelqu'un qui l'est sérieux ou envisager quelque chose sérieusement? C'est comme ça qu'il faut l'entendre.
Oui, alors c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Si dans ce rapport au sérieux, dans le fait de prendre au sérieux quelque chose, ce qu'on entend, c'est de se rapporter à son présent, au moment de son existence, comme s'apparentant à une durée dans laquelle ce présent s'insère, mais dans un rapport de totalité. C'est-à-dire que c'est pas simplement envisager le présent comme un moment qui est simplement fuyant, mais vraiment comme un moment qui s'inscrit dans un devenir.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise en compte de l'instant. Jean Kelevitch, quand il veut parler de l'aventure, dit qu'il parle d'instant minute.
Ouais.
C'est l'instant minute. C'est vrai, à chaque minute, tout peut basculer. Celui qui est sérieux ne pense pas la minute, il pense le temps long, le durable,
tout à fait.
Le programme, le plan ou le projet. Celui qui est dans l'aventure se dit qu'à chaque minute, c'est là, il y a une vraie prise de risque. Tout
absolument.
Est absolument imprévisible.
Absolument, oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que... il y a une grande vérité, en fait, hein, à se rapporter à l'aventure comme un mode temporel, comme une disposition temporelle, et pas simplement comme une péripétie ou un enchaînement d'actions. Il y a beaucoup plus dans l'aventure. Il y a justement un rapport de soi au temps dans lequel on vit.
C'est vraiment une manière de vivre, un
absolument.
Choix de vie.
Absolument. Et d'ailleurs, Jean Kelevitch utilise le terme de style de vie à plusieurs reprises dans ce texte. Et on comprend bien que dans le style de vie, c'est ça. C'est qu'en fait, je crée ma vie dans l'aventure. Dans le sérieux, je la construis. Dans l'aventure, c'est vraiment une création immédiate, imprévisible, et qui pourra m'emmener justement sur un chemin dont je ne peux pas connaître la destination.
Ça veut dire que l'aventure est proche du geste de l'artiste qui crée sans savoir ce qu'il va créer.
Exactement, oui. D'ailleurs, l'aventure esthétique constitue une des formes d'aventure. En fait, Jean Kelevitch va proposer une typologie de l'aventure. Il va y avoir l'aventure mortelle, l'aventure esthétique et puis l'aventure amoureuse. Je vous laisse deviner évidemment celle qui sera la plus importante pour Jean Kelevitch. L'aventure esthétique, c'est effectivement... il y a une communauté en fait entre l'artiste et l'aventureux. Jean Kelevitch dit même à un moment que ceux qui ne sont pas artistes, ceux qui n'arrivent pas à être peintres, qui n'arrivent pas à être sculpteurs, peuvent justement être aventureux. C'est la beauté, l'idéal mis à leur portée, mis à la portée en fait de tous ceux qui ne sont pas artistes.
Mais est-ce que ça relève d'un choix ? Parce qu'à vous écouter ou à lire Jean Kelevitch, on pourrait très bien se dire « Je vivais jusque-là de manière sérieuse en voulant faire des projets durables et libre à moi en fait de décider de vivre de manière plus légère, de prendre des risques à chaque minute. Mais nous avons un tempérament, un caractère qui nous réduit notre liberté de pouvoir vraiment choisir la manière de vivre notre vie. »
Oui, alors ce qui caractérise l'aventure, c'est quand même justement cette intermédiarité, c'est un effet de seuil en fait l'aventure, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait une volonté au départ, il faut qu'il y ait une décision, c'est-à-dire je dois décréter que je veux vivre une aventure. L'aventure ne m'est pas imposée de l'extérieur. Si elle m'est imposée de l'extérieur, en général c'est plutôt une tragédie ou un accident, quelque chose qui m'arrive et qui n'est pas désiré, alors que c'est pas du tout le cas. L'aventure, c'est justement, c'est ce qui se passe après la décision, justement, de vivre le temps avec passion. Donc c'est ces deux moments, en fait. Effectivement, on n'est pas entièrement libre. Et Jean Kelevitch parle toujours de l'homme comme d'un apprenti sorcier, comme un individu qui se trouve dans une position intermédiaire, qui est à la fois libre et en même temps déterminé. Mais dans l'aventure, justement, ce qui compte, c'est ce premier moment d'initier.
C'est le commencement qui est aventureux.
Exactement.
Dit Jean Kelevitch.
Exactement. Et c'est toujours. Et d'ailleurs, on ne sait jamais où l'aventure va nous mener. Et c'est là, en fait, que le geste aventureux se produit, c'est dans le commencement, c'est dans la décision de se lancer dans l'aventure.
Chaque décision est une aventure, on peut le voir comme ça.
Alors ça dépend. Si la décision c'est de se rapporter à ce qu'on va faire, à notre projet, avec sérieux ou avec ennui, non, dans ce cas-là, on n'arrivera pas à rester dans l'aventure. Mais quand on décide de se rapporter au temps dans ce que ça a de plus imprévisible, dans ce cas-là, oui, on est dans l'aventure. Et c'est pour ça que tout ce qui est de l'ordre de l'exotisme, du tourisme, du voyage, ne peut pas constituer l'essentiel de l'aventure. C'est pas ça l'aventure. L'aventure, c'est avant tout une disposition temporelle.
Alors avant d'aller plus loin en votre compagnie Laure Barrias, il faut qu'on analyse le troisième concept qui a été mobilisé par Jean Kelevitch dès le titre, hein, l'aventure, le sérieux, l'ennui. Comment est-ce qu'on définit l'ennui ?
Alors l'ennui, on le définit, mais on le ressent surtout.
Oui, hein, c'est vrai.
C'est indéniable. Hein. Autant l'aventure, on n'est pas toujours, quoique on n'est pas toujours certain, l'ennui, c'est très clair. L'ennui, c'est vraiment le temps qui s'arrête. C'est la prise de conscience de ce qu'est le temps. Et c'est l'arrêt du temps qui n'est plus créateur, qui n'est plus producteur et qui va simplement marquer un arrêt dans ma vie. Et ce qui est très intéressant chez Jean Kelevitch, c'est qu'évidemment, l'ennui n'est comme tout, hein, le sérieux, l'ennui et l'aventure sont des rapports, des relations. Donc il n'y a rien en soi d'ennuyeux, il n'y a rien en soi d'aventureux, il n'y a rien en soi qu'on puisse qualifier ainsi. Ce qui compte, c'est vraiment le rapport du sujet à...
Mais il parle quand même, Jean Kelevitch parle quand même de maladie du temps à propos de l'ennui.
Bien sûr.
Il y a donc une pathologie.
Ah oui, il y a une pathologie, mais dont en fait on peut très bien se sortir, en fait, justement par cette décision de la volonté. C'est-à-dire que là, c'est effectivement, hein, l'ennui, c'est ce que Jean Kelevitch appelle une algie du temps, c'est une maladie du temps, mais il suffit en fait de s'en sortir par le retour d'une volonté créatrice et d'un rapport au temps qui est passionné, en fait.
Alors il y a deux antidotes à l'ennui. Peut-être qu'il y a la volonté de s'en sortir, qui serait l'aventure, mais il y a aussi le coup de foudre.
Ah oui.
Jean Kelevitch aime beaucoup parler de l'amour, pas seulement en parler d'ailleurs, mais c'est vraiment un des philosophes qui parle le mieux des effets des rencontres amoureuses et du rapport au temps que crée le sentiment d'être amoureux. Et il fait justement de l'amour, de la rencontre amoureuse, l'aventure ultime et celle qui en un instant, c'est pas l'objet d'une décision pour le coup, va changer notre vie et nous faire basculer du côté de l'aventure.
Non, c'est vrai. Alors, c'est pas l'objet d'une décision, mais il faut quand même être un peu prédisposé. C'est-à-dire que... L'aventure amoureuse, c'est comme toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur. Il faut quand même, pour tomber amoureux, il faut quand même qu'il y ait une rencontre. Et pour que la rencontre se produise, il faut quand même être ouvert à cette futurition, à la possibilité que, à tout moment, quelqu'un arrive et change notre vie.
Prenons un exemple, puisque Jean Kelevitch a beaucoup recours aux exemples. C'est un film, Le goût des autres, film d'Agnès Jaoui de Jean-Pierre Bacri, qui sorti en 2000, dans lequel on voit bien Jean-Pierre Bacri qui est avec sa compagne au théâtre, il s'ennuie, et tout d'un coup, l'actrice apparaît sur scène, et là, c'est le coup de foudre immédiat. Écoutez ce passage de l'ennui à l'amour, et donc la naissance de l'aventure.
Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, je le vois bien, Arzas, est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet, superbe et solitaire, des secrets de Titus est le dépositaire.
Oh, putain, sans verre.
C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour, lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour.
Ces costumes.
De son appartement, cette porte est prochaine, et cet autre conduit à celui de la reine. Va chez elle. Dis-lui qu'important à regret, j'ose lui demander un entretien secret.
Si nous ne pouvons commander à nos pleurs...
Mais c'est pas Virginie là-bas, au fond.
Que la gloire du moins soutienne
si,
nos douleurs.
Si,
que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer.
Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu cruel que pour le rendre quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre? Tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous, il était temps encore que ne me quittiez-vous. 1000 raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main.
L'aventure amoureuse apparaît comme une parenthèse à l'intérieur du vécu, comme une sorte de madrigal ou de poème en vers interpolé au milieu du texte prosaïque et sérieux de l'existence. Apportant une solution de continuité dans la trame de cette existence, l'aventure amoureuse est une sorte d'intermède poétique qui interrompt la prose quotidienne. Ou mieux, elle reste pour nous une gracieuse anecdote à fleur de destin, un caprice de l'épiderme. L'attrait de l'aventure, sous ce rapport, c'est l'attrait de la coupable bougeotte, de la tentante mutation qui s'offre à distraire notre ennui et à accélérer le renouvellement dont, pour tout homme, la futurition est la source. L'homme joue avec la femme inconnue dont il a croisé le regard dans l'autobus et qui est pour lui la promesse pas très sérieuse d'un monde nouveau, d'une vie inédite. Changer de place, changer de femme sont deux formes entre bien d'autres de ce prurit du déplacement, du dépaysement, du déménagement qui est un alibi de la curiosité amoureuse. L'aventure amoureuse en cela ressemble à l'œuvre d'art. Mais en un autre sens, l'amour pousse des racines profondes du centre de l'existence et l'intéresse tout entière d'une manière réellement essentielle que la vie peut en être de fond en comble transformée. La closure ici n'est jamais imperméable. Des phénomènes d'absorption et de résorption ne cessent de se produire, soit que l'océan du sérieux environnant s'infiltre dans l'aventure, soit que l'amour aventureux déteigne sur la vie sérieuse. L'aventure d'amour est un jeu sérieux. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, l'aventure, l'ennui, le sérieux, trois expériences que vous connaissez bien. Bien, c'est le titre que Vladimir Jankélévitch a donné à l'un de ses textes, qui est au programme des prépas scientifiques cette année. Alors, pour leur venir en aide et pour vous faire découvrir ce texte à tous, chers auditeurs, on a décidé d'en parler aujourd'hui, en compagnie de la philosophe Laure Barillas. Alors, le texte que j'ai lu est tiré de l'aventure, l'ennui, le sérieux, la description de l'aventure amoureuse par Jankélévitch. Il venait ponctuer l'extrait du goût des autres que nous avons entendu. Un mot sur cet extrait quand même, parce que il y a une intéressante mise en abîme qui opère à ce moment-là, puisque le couple en question assiste à une représentation de Bérénice, qui est déjà l'histoire d'un amour compliqué, interdit, et c'est une comédienne qui, lorsqu'elle entre en scène, va taper dans l'œil de Jean-Pierre Bacri, qui va immédiatement tomber amoureux. Et l'amour dans le film est signifié par l'arrivée de la musique. C'est pour ça que c'était audible à la radio, indépendamment du regard de chant contre chant. Et pour Jankélévitch, s'il y a bien une chose qui peut accompagner le sentiment amoureux, c'est bien la musique, Laure Barillas.
Oui, évidemment, c'est un grand philosophe de la musique. Et cet extrait, en fait, c'est très frappant parce qu'il illustre de manière saisissante, en fait, la conversion qui se produit entre ce qui est, alors, de l'ordre de l'ennui, mais qui peut aussi être de l'ordre d'une aventure esthétique qui serait pas très réussie, c'est-à-dire quand on est spectateur au théâtre, mais on n'est pas vraiment dedans, et qui va se métamorphoser, qui va se convertir en aventure amoureuse. Et ce passage, c'est très intéressant parce que Jankélévitch, en fait, le conçoit lui-même, en fait, dans le texte, en disant que l'aventure esthétique finalement est un stade inférieur par rapport à l'aventure amoureuse, parce que dans l'aventure esthétique, il y a une distance. On est plutôt dans le récit d'une aventure, c'est-à-dire que le spectateur ou l'acteur se regarde jouer ou se regarde regarder ou s'ennuyer devant le spectacle. Alors que justement, l'aventure va se produire au moment où l'acteur va se prendre à son propre jeu, où le spectateur va se prendre au spectacle. Et donc justement, où il y a cette conversion qui se produit, cette futurition qui est imprévisible. On ne sait pas à quel moment justement cette passion va se produire. Et c'est exactement ça qui fait l'aventure en fait. L'aventure, c'est la passion du temps. C'est consentir à un temps qui passionne l'existence. Et donc c'est exactement ce qui se passe à la fois. Donc il y a une double conversion en fait dans cet extrait. Il y a la conversion de l'ennui à l'amour et il y a la conversion d'une aventure esthétique pas très bien vécue à une aventure amoureuse passionnée.
Et ce qui montre bien que dans le second cas, ici, l'aventure n'est pas le résultat d'un choix ou d'une décision. Ça arrive, on dit bien tomber amoureux. C'est presque une chute, on est rattrapé par la réalité.
C'est vrai, oui, bien sûr. Mais moi, je persiste à penser quand même qu'il doit y avoir cette disposition, en tout cas possible, là, qui est permise d'une certaine façon par le dispositif scénique, par l'ennui d'une certaine façon aussi. L'ennui qui détourne aussi quand on s'ennuie au théâtre avec quelqu'un, c'est peut-être aussi qu'on s'ennuie, c'est possible
aussi. Tout court, oui.
Tout court. Et donc, il y a cette distance, en fait, qui est à la fois entre le spectateur et l'acteur, mais aussi entre le spectateur et la personne qui l'accompagne. Donc, je pense qu'il y a quand même, effectivement, au minimum un consentement. Peut-être pas forcément une décision, mais au minimum un consentement à l'aventure amoureuse.
L'amour serait l'essence même de l'aventure, en fait, rencontre amoureuse, c'est
oui,
ça?
Oui, absolument. En fait, ce qui va distinguer l'aventure amoureuse des deux autres types d'aventures, que sont l'aventure mortelle et l'aventure esthétique, c'est qu'en fait, l'aventure amoureuse va être la seule forme d'aventure qui ne se stabilise jamais, en fait, qui ne retombe pas immédiatement dans une durée, dans une immobilité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va faire l'aventure amoureuse, ça va être un jeu, un rapport constant entre ce qui est de l'ordre du jeu et ce qui est de l'ordre du sérieux. C'est-à-dire
jeu J-E-U.
Oui.
Oui, il disait à la fin du texte, l'aventure d'amour est un jeu sérieux.
Exactement, c'est exactement ça. Exactement. Et il faut jouer sérieusement dans l'amour. Et c'est exactement ça, en fait. Il faut qu'il y ait nécessairement ce dynamisme, en fait, ce mouvement permanent dans l'aventure qui ne se fige pas simplement du côté du jeu. Dans ce cas-là, ça va être une aventure au sens érotique pour Jean Kelevitch, ou alors qu'elle se fige simplement du côté du sérieux, et dans ce cas-là, ce sera peut-être plutôt une conception un peu triste de l'amour conjugal, alors que l'aventure amoureuse, dans sa pleine aventure, justement, ça va être ce mouvement permanent entre ce qui est de l'ordre du jeu et ce qui est de l'ordre du sérieux, ce qui ne se fige pas sur un de ces deux pôles.
Mais ça veut dire que l'amour, ou plutôt l'aventure, n'exclut pas la longue durée.
Non, effectivement.
Alors qu'on avait dit que la longue durée, c'était le propre du sérieux, de celui qui, justement, ne prenait pas de risques.
Non, l'aventure peut être vécue, peut-être même toute une vie, c'est possible, mais il faut en permanence la recommencer. Comme ce qui fait l'aventure, c'est le commencement, eh bien, il faut la recommencer en permanence. Donc, si on a une disposition fantastique au commencement...
C'est ça, c'est quand même une disposition qu'on a ou qu'on n'a pas.
Alors, il est possible peut-être en lisant Jean Kelevitch de se convertir à l'aventure, mais c'est quand même cette idée que nécessairement dans l'aventure, ce qui compte c'est le commencement. Et donc, si on arrive à être dans un perpétuel recommencement, c'est possible éventuellement de vivre une vie intégralement aventureuse.
Mais on peut lire Jean Kelevitch, on va surtout l'entendre. Écoutez.
Le temps est essentiellement irréversible, pas accidentellement, mais essentiellement. Si irréversible, c'est que c'est pas le temps dont vous parlez, mais l'espace. C'est pas l'espace, c'est irréversible. Vous pouvez aller à la gare du Nord, puis en revenir. Vous prenez le métro de Montreuil à la porte de et puis vice versa. Tout est possible dans l'espace, mais dans le temps, vous pouvez pas. Et même dans le temps, quand vous allez par exemple de Paris à Rouen, et de Rouen à Paris, alors dans l'espace, le retour annule l'aller. Mais dans le temps, le retour de Rouen à Paris s'inscrit à la suite du départ de Paris à Rouen, n'est-ce pas? Il fait suite. Et quand vous revenez à Paris, vous n'êtes plus le même. Surtout si vous avez eu des rendez-vous d'amour à Rouen, par exemple. Alors là, vous revenez transformé. Mais même sans rendez-vous d'amour, quand vous êtes allé quelque part, eh bien, vous êtes imperceptiblement changé. Vous êtes celui qui a fait le voyage à l'aller. Donc, l'irréversible est absolument identique au temps.
C'était Vladimir Jankélévitch au micro de France Culture d'ailleurs en 1971. Pour ceux qui ne sont pas familiers de sa voix, elle exprime en elle-même cet élan qui accompagne la pensée de Jankélévitch, cette musicalité et ce caractère imprévisible. On ne sait jamais quand il va s'arrêter de parler.
Oui, on ne sait jamais ce qu'il va dire exactement, l'image ou la métaphore qu'il va utiliser. Donc oui, ça exprime son style, cette reprise permanente de son propos, et ça exprime aussi son humour, je crois. Hein. Je crois que c'est quand même une philosophie qui a le mérite très rare hein, d'être drôle. Il y a vraiment des passages qui sont sincèrement très drôles. Et oui, je pense qu'il y a tout dans sa voix, en fait.
Alors ici, il faisait le lien avec l'irréversibilité du temps. Peut-être que pour bien comprendre le caractère exceptionnel de l'aventure et la nécessité de penser l'aventure comme un concept, faut-il avoir en tête cette vérité que Jankélévitch tente tout au long de son œuvre d'écrire et de décrire, qui est le caractère irréversible du temps. C'est que le temps, c'est notre tragédie. On ne peut jamais le faire renaître, on ne peut jamais l'arrêter. Il s'écoule devant nous et nous n'en sommes que spectateurs.
Oui, et effectivement, il va décliner en fait ce principe de l'irréversibilité dans plusieurs de ses grands livres, dont notamment La nostalgie et l'irréversible. Et c'est ça qui est effectivement très présent aussi dans l'aventure. C'est l'idée que l'aventure, c'est nécessairement ce qui est prime ultime.
Alors, c'est
un beau néologisme qui veut dire qu'il se produit pour la première fois et pour la dernière fois. Ou alors que l'aventure, c'est malfactive.
Il parle du premier dernier baiser, c'est ça?
Voilà, exactement. C'est ça. C'est qu'effectivement, le premier baiser est toujours le dernier premier baiser. Et donc, effectivement, c'est ça l'irréversible, en fait. C'est ce qui donne, cette passion en fait de l'existence, c'est que c'est ce sur quoi va se détacher tout ce que l'on va vivre. Rien ne peut être recommencé et l'aventure, à chaque fois qu'on va vouloir la reprendre, finalement ce sera une autre aventure. On peut vivre une vie aventureuse, mais elle sera composée d'une infinité d'aventures. On ne peut pas vivre une vie qui serait intégralement aventureuse, sinon ce serait là effectivement une vie d'aventurier, pas une vie d'aventureux. Et je pense que c'est aussi un concept, l'irréversibilité, qui permet de comprendre que sa philosophie, à la fois une philosophie tragique et aussi une philosophie quand même de l'amour et de la joie, qui tient vraiment ces deux moments dans sa pensée ensemble en permanence, et qui est très sensible aussi dans la question de l'aventure, puisque ce qu'on comprend, c'est que l'aventure, et c'est une distinction qu'il fait dans le livre, l'aventure, c'est la joie de commencer. Alors que dans le reste des autres, dans d'autres formes de vie, on va pouvoir ressentir une jouissance. Mais la jouissance, elle sera forcément dans la durée. La joie ne va nécessairement se produire que dans la création, que dans l'instant qui va inaugurer l'aventure.
Ouais, mais la jouissance du côté de la durée, la joie du côté de l'instant.
Absolument, ouais, c'est une partition. Il y a un très grand nombre de partitions, de concepts qui sont très proches, mais qui n'ont pas exactement le même sens pour Jankélévitch. On y viendra peut-être tout à l'heure. Il y a celui de destin, destinée, de tentation, désir. Enfin, il y en a beaucoup, et dont celui, effectivement, de la joie et de la jouissance. La joie qui est forcément du côté de l'aventure et donc de l'instant, et la jouissance qui peut être plutôt du côté du présent.
C'est contre-intuitif parce que oui, c'est ça, la jouissance, on sait d'expérience que la jouir ne dure pas, quand la joie, en tout cas dans les philosophes qui l'ont précédée, est thématisée comme au contraire un mode d'être au monde, être dans la joie, c'est une mode d'acceptation de ce qui est pour atteindre une forme de béatitude.
C'est vrai, effectivement, mais je pense que c'est une conception très haute aussi de la joie, qui est vraiment l'irruption dans le moment d'un pur commencement, et qui se rapproche en fait tout à fait d'un acte libre en fait, de la joie qu'on peut ressentir dans les moments les plus libres de notre existence, et qui, par définition, ne peuvent pas vraiment durer, qui vont retomber justement en durée. Alors que la jouissance, c'est peut-être un moyen de se rapporter à l'émotion, effectivement, dans une durée qui est plus raisonnable, qui est plus sérieuse, effectivement, de manière assez paradoxale, au fond.
Vous avez parlé de moments libres, que la joie arrivait dans les rares moments libres de notre existence. Pourtant, si on tient l'amour pour modèle de l'aventure, on est rarement aussi peu libre que lorsqu'on est amoureux. On est complètement asservi à ses passions.
Alors, ça dépend à quel moment de l'aventure on se trouve. Si on se trouve au début de l'aventure, a priori, on est encore dans un moment d'exaltation et dans un moment de joie dans lequel le sujet peut éprouver cette joie qui peut quand même se rapprocher des grands moments d'actes libres dans une vie. Effectivement, le problème, c'est quand l'aventure ou l'aventure amoureuse va dégénérer dans la fin, quand le couple se sépare, ou alors dans une durée qui serait plutôt une durée de l'ennui et de la conjugalité intermédiaire.
Donc, mais pour Jankélévitch, la liberté est possible. L'acte libre est pensable,
oui,
et possible.
Absolument, tout à fait. Et l'acte libre est même presque confondu en fait avec ce moment du commencement, cette faculté d'inaugurer quelque chose, de commencer une nouvelle chaîne d'action. Et donc oui, c'est tout à fait possible.
Appelons destin ce que fabriquent à l'homme les fatalités économiques et sociales, physiologiques et biologiques, les fatalités matérielles en un mot, l'hérédité, l'infinité elle-même, être pauvre de naissance, handicapé par une maladie grave, etc. Voilà qui fait partie de mon destin. De ce destin clos et rigide, on peut dire que l'aventure amoureuse ne fait pas partie. Mais il y a autour de ce destin quelque chose d'évanescent et de plus flou, qui le cerne comme une aura ou un halo de lumière et que nous appelons du mot féminin de destinée. La liberté par laquelle l'homme modifie son propre sort est elle-même un ingrédient de cette destinée atmosphérique. La destinée donne un sens à des bizarreries arbitraires, absurdes ou décousues que le destin rejette. Un exemple montrera comment se distingue l'ouverture de la destinée et la clôture du destin. Il ne faisait pas partie du destin d'un poète de faire la contrebande des armes en Abyssinie et d'aller mourir ensuite misérablement dans un lazaret de Marseille. Or, chacun sait que tel fut le lot de Rimbaud. Ce n'était pas le destin d'un poète, mais peut-être était-ce sa destinée ? Il fait partie du destin d'un poète de publier des volumes de vers chez les éditeurs parisiens, d'avoir ou de n'avoir pas le prix machin, de prononcer des oracles dans les hebdomadaires, de tenir son rôle dans le guignol de la République des Lettres. Par contre, cette chose saugrenue, bizarre, fantasque, qui consiste à vendre des armes à des rois d'Arabie, n'est pas prévue dans une carrière d'écrivain. Ce fut là pourtant la destinée de Rimbaud. On continue l'aventure sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'aventure toute cette semaine et aujourd'hui c'est le dernier jour, on arrive presque au terme, mais on n'y est pas encore. Laure Barrias en votre compagnie, nous parlons de Jean Kelevitch aujourd'hui et ce texte « L'aventure, l'ennui, le sérieux ». Le texte que je viens de lire qui distingue le destin, la destinée, est très important pour continuer notre discussion. Je crois que c'est un texte qui vous plaît particulièrement, non ?
Oui, c'est un texte que j'aime beaucoup, que j'avais moi-même lu quand j'étais en classe préparatoire, en fait.
Alors.
C'est parfaitement à propos. Oui, je trouve que cette distinction, en fait, entre le destin et la destinée, elle restitue une intuition, je pense, qui est très, très juste, qui est que dans notre vie, il y a effectivement une fatalité matérielle, économique, politique, sociale qui s'exprime nécessairement. Mais en plus, dans notre vie, il y a cette possibilité de la liberté, cette possibilité de l'amour qui se confondent presque entièrement hein, dans ce texte, qui est une forme de surcroît, d'excès, qui est imprévu, surgit comme une aventure dans une existence. Et effectivement, Jean Kelevitch prend l'exemple de Rimbaud, il prend ensuite un peu plus loin, je crois, l'exemple de Gauguin. Et donc, effectivement, c'est des figures d'aventureux au sens plus classique du terme, et auquel on voit bien dans ces exemples-là que c'est la destinée qui fait l'aventure. C'est dans cette volonté de passionner le devenir, de ne pas être simplement justement du côté de l'être, du côté de ce qui est, mais plutôt d'être du côté de ce qui devient, de ce qui ne s'arrête jamais, de ce qui est imprévisible, que l'aventure et que la destinée vont se trouver, évidemment, aux côtés de l'amour et de la liberté.
On parlait il n'y a pas si longtemps à ce micro, on avait fait une série sur le destin et une émission sur le texte de Voltaire, Zadig ou la destinée. Et le terme de destinée est présent et c'est exactement il illustre à merveille ce que la définition que Jean Kelevitch en donne. Zadig est celui qui ne suit aucun destin, qui sans cesse remet en jeu son existence, si ce n'est à chaque minute, du moins à chaque chapitre, et les chapitres sont courts, et qui suit un sort absolument imprévisible. C'est l'illustration de la destinée.
Oui, tout à fait. Mais moi, j'avais jamais lu, en tout cas, cas une distinction qui soit aussi claire de ce qui est de l'ordre du destin et ce qui est de l'ordre de la destinée. Parce que justement, dans le destin, il y a quand même quelque chose de plus. Il y a quand même un excès, effectivement, qui n'est pas simplement, qu'on ne peut pas réduire simplement à des formes de vie qui sont complètement closes, qui sont déterminées par des catégories, comme le dit Jean Kelvitch, sociales, économiques, culturelles. Il y a toujours quelque chose de plus. Il y a quelque chose dont on ne peut pas rendre compte si on n'a pas ce concept de destinée. Moi, je trouve que c'est un texte qui est très puissant de ce point de vue.
Et l'exemple de Rimbaud, en effet, outre l'humour qu'on fait preuve Jean Kelevitch en tirant au passage sur tous les hommes de lettres qui l'entourent et les éditeurs parisiens, montre bien que peut-être que la destinée du côté de la créativité permanente, mais on pourrait lui objecter que quand il propose le terme de destinée, il fige la réalité désignée par le terme autant que le destin. Ce fut là la destinée de Rimbaud, on y entend presque une fatalité, ce fut là.
Oui, alors je peux vous répondre par une autre distinction que Jean Kelevitch fait plus tard dans le texte, qui est la distinction entre biographie et vie. C'est-à-dire que là, ce que nous donne Jean Kelevitch, c'est la biographie de Rimbaud, c'est-à-dire sa vie une fois qu'elle s'est produite, une fois que ce qui était destiné est devenu d'une certaine façon destin, puisque ça s'est produit, c'est irréversible. Alors que la vie, évidemment, la vie c'est ce qui va être du côté de la destinée et ce qui est imprévisible. Donc nous, on vit la vie de Rimbaud comme une aventure esthétique, comme ce qui nous est raconté, donc plutôt comme un destin, alors qu'en réalité, pour lui, c'était plutôt une manifestation de la destinée, de sa liberté et de son amour de la futurition.
Oui, ça c'est ce qu'on disait sur l'aventure esthétique, elle induit toujours un rapport de contemplation de la part de celui qui la vit, et surtout qu'elle est toujours après coup, c'est-à-dire que celui qui lit les poèmes de Rimbaud, qui assiste à la représentation de la pièce Bérénice de Racine, ou même qui lit peut-être Jean Kelevitch, vit une aventure parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer, rien n'est prévu, il est ouvert à tout, et en même temps... ce sont des choses qui sont déjà écrites.
Absolument.
C'est un rapport particulier à la temporalité d'ailleurs. Oui. De découvrir quelque chose qui a déjà été.
Mm-hmm. C'est le propre de la rétrospection en fait. Hein. Et c'est pour ça que finalement l'aventure esthétique est une forme qui est une forme un peu inférieure, même pas un peu, qui est une forme inférieure de l'aventure parce que justement c'est un rapport rétrospectif. Même quand moi-même je me raconte une aventure que j'ai vécue, je ne suis plus déjà du côté de cette aventure de la futurition. C'est un rapport au temps qui est révolue, qui est irréversible. Et une fois que l'aventure a basculé dans l'irréversible, elle peut être une aventure esthétique. Elle peut faire...
Si je l'écris,
je la raconte, si je me la raconte même à moi-même, ça suffit. Mais elle ne peut plus être une aventure vivante dans ce qu'elle a de plus aventureux, en fait.
C'est incroyable parce que la pensée de Jean Kelevitch, ou plutôt le texte de Jean Kelevitch, nous permet de penser l'expérience dans ce qu'elle a de plus infime depuis. Il emploie beaucoup l'expression de pointe de l'existence. Oui. On se situe sans cesse vraiment à l'extrémité d'une pointe que seraient les instants que compose notre vie. Et on se demande toujours si on n'est pas sur le point de tomber. Chez Jean Kelevitch, on marche sur la pointe des pieds, sur chacune de ces pointes, justement, sans jamais tomber. Mais ça demande une attention énorme. C'est épuisant de vivre comme Jean Kelevitch nous invite à le faire.
Oui, et c'est aussi épuisant de le lire, puisque d'une certaine façon, son écriture, son style, c'est aussi ça, en fait. C'est maintenir en permanence les effets de répétition, les effets de style, les images, les métaphores. C'est aussi une façon de maintenir le langage dans un mouvement perpétuel. C'est empêcher, en fait, les concepts de retomber, de se réifier. Et c'est ça qui est effectivement très difficile, en fait, quand on est... comme la philosophie de Jean Kelevitch, une philosophie du devenir, de l'instant, de l'apparition disparaissante, comme il le dit souvent, on est toujours au seuil de quelque chose dont on s'approche, qu'on peut presque toucher, mais dès qu'on le touche, qui disparaît. Donc c'est pour ça, en fait, que cette écriture, ce style, a aussi c'est aussi une méthode philosophique d'une certaine façon. C'est aussi un moyen de maintenir, en fait, les concepts les plus vifs, à un état d'intuition, en tout cas de manière plus vivant et plus mouvant, dynamique, pour reprendre le vocabulaire de Bergson, que le ferait une écriture plus didactique, plus classique en philosophie.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, que si ce texte est un des plus didactiques de Jean Kelevitch et en ce sens peut-être invite plus facilement la lecture de Jean Kelevitch. Une fois qu'on y entre et qu'on commence à le lire, on se rend compte qu'il est finalement plus difficile qu'il n'y paraît de précisément définir les concepts employés et que c'est pas grave. Et ça, c'est une chose qu'il faut dire aux étudiants qui concluent d'ailleurs de la philosophie. Hormis chez Kant peut-être où chaque terme employé est défini, il y a aussi beaucoup d'intuition qui est en jeu dans le travail philosophique.
Oui, absolument. Et bon, d'ailleurs, la lecture de Jean Kelevitch est toujours un peu une une expérience de la conviction, c'est-à-dire qu'il faut y croire en fait aussi.
C'est vrai.
Pour saisir en fait cette nuance entre le destin et la destinée, il faut aussi le vouloir. Hein. Il faut aussi avoir une, ce que Jean Kevich appelle la bonne volonté. Et je pense que sa lecture suppose effectivement à la fois un rapport au texte qui est proche de l'intuition, mais aussi un rapport, mais comme toute lecture, de bonne volonté. Il faut vouloir y voir et y lire ce que l'auteur a saisi et ce qu'il a dû formuler de cette façon-là, même si effectivement rien n'est jamais plus convaincant que quand on l'entend, effectivement, parce que là son langage est dans une espèce de prolifération et de vie qui rend les concepts irrésistibles.
De bonne volonté, mais aussi d'affect en général. Jean Kelevitch ne s'adresse pas qu'à notre raison. Il nous fait rire, il nous fait sourire, il nous rend souvent joyeux. Il parvient à montrer, de par son style, que vraiment la philosophie n'est pas qu'une affaire de concept, c'est aussi véritablement un choix de vie, une manière de vivre.
Absolument, et c'est un style de vie. Pour ceux qui en font leur vie, mais aussi pour ceux qui la lisent. Et c'est évidemment une expérience de la conversion, en fait, quand on lit Jean Kelevitch. Alors la conversion, évidemment, pas dans son sens religieux, mais dans son sens vraiment moral et métaphysique. Et c'est pour ça aussi que c'est une pensée qui est si singulière, parce que c'est une pensée qui a une vocation éminemment pratique. Jean Kelevitch le dit toujours, hein, le but c'est pas de définir tel ou tel concept, le but c'est d'arriver à mieux vivre. Ce qu'il dit de la musique, il le dit de l'amour, et on peut le dire aussi de la philosophie, on peut vivre sans philosophie mais pas aussi bien. Et donc c'est ça en fait, c'est ce supplément, cet excès qu'apporte finalement son œuvre et qui en fait un objet universitaire assez difficile à saisir finalement, parce que la méthode s'y prête assez peu. C'est pour ça que c'est très bien finalement que ce soit l'aventure, l'ennui, le sérieux qui soit au programme, puisque c'est quand même une œuvre qui est justement un peu plus immobile peut-être que ces autres traités. Donc c'est, oui, c'est une expérience qui transforme.
On peut vivre sans philosophie, sans musique, sans amour, mais pas aussi bien.
L'aventure commence à l'aurore. À l'aurore de chaque matin, l'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore. À l'aurore de chaque matin, l'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. Ce que l'on cherche à redécouvrir fleurit chaque jour au coin de nos vies. La grande aventure, il faut l'accueillir entre notre église et notre mairie, entre la barrière du grand-père Machin et le bois joli de monsieur le baron, et entre la vigne de notre voisin et le doux sourire de la Madelon.
La Madelon.
Un grand merci à vous, Laure Barrias, d'être venue nous parler de Jean Kelevitch aujourd'hui.
Merci à vous, Adèle.
L'aventure, l'ennui, le sérieux, c'est donc le titre du texte qui est au programme des prépas scientifiques qui ont d'ailleurs comme thème de ce programme l'aventure. Donc je les invite à écouter toutes les émissions de cette semaine. Elles leur sont dédiées évidemment. J'espère qu'elle leur aidera à préparer ce concours. Et puis bien sûr, elles intéresseront tous les auditeurs, même ceux qui ne sont pas en prépa scientifique. Je crois qu'ils sont plus nombreux que l'inverse. On se quitte avec Brel. L'aventure, c'est aussi une autre manière de réfléchir sur son même concept. On se quitte pas vraiment, parce qu'en fait, on retrouve Géraldine Mosin-Savoie et son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle et bonjour à tous.
Avec vous l'aventure, c'est tous les jours l'aventure de l'actualité. Quelle actu a retenu votre attention ?
Eh bien j'ai voulu aujourd'hui m'arrêter sur la langue et sur une question en particulier. Jusqu'où la langue peut-elle exprimer notre être, notre identité et nos idées politiques ? Et oui, tout ça. Alors je l'avoue, cette question ne m'est pas venue comme ça. Hein. C'est une double actualité qui me l'a soufflée. Et d'abord l'actualité politique avec la prise de position la semaine dernière de l'Académie française sur l'écriture inclusive qu'elle juge comme un péril mortel pour la langue française, quand les féministes y voient au contraire le moyen de rendre visibles les femmes.
Et l'autre actualité qui vous a intéressée ?
Eh bien, l'autre actualité, Adèle, c'est une actualité philosophique qui m'a inspirée, puisque pour se demander quel est le lien entre langue et être, et pour éclairer son enjeu politique, rien de mieux que le philosophe, linguiste, activiste en chef, dont deux ouvrages sont parus à la rentrée, et même un documentaire sur Netflix, c'est bien sûr Noam Chomsky.
Well, let me begin in a slightly technical way A person who's interested in studying language is faced with a very definite empirical problem. He's faced with an organism, a mature, let's say, adult speaker, who has somehow acquired an amazing range of abilities which enable him in particular to say what he means, to understand what people say to him, to do this in a fashion that I think it's proper to call highly creative.
Alors, pour rappeler le parcours de Noam Chomsky, on peut dire qu'il y a dans son œuvre deux types d'écrits, la théorie linguistique et les écrits politiques. Dans l'extrait que l'on vient d'entendre, Chomsky a 43 ans, il débat avec Michel Foucault et on lui doit déjà un apport fondamental à la grammaire, c'est la grammaire générative. Alors, il faut en dire deux mots et il faut préciser que la grammaire générative, c'est une procédure pour énumérer et analyser mécaniquement tous les énoncés d'une langue. Alors, dit comme ça, on peut se demander quel rapport entre la linguistique de Chomsky et son militantisme, et même plus généralement quel rapport entre la langue et ce que l'on est, ce que l'on pense. Et pourtant, dans cet extrait, Chomsky le dit, quand on est face à un homme qui parle, on est face à un organisme capable d'exprimer sa pensée. Et là est le lien. Mais comment être sûr que ce que l'on dit vient de soi quand on est imprégné par l'air du temps et influencé par ces éléments de langage ?
Il y a des gens comme nous, les classes éduqués, qui ont été dans les bonnes écoles, qui ont eu un bon enseignement et qui ont été indoctrinés pour à ne pas voir certaines choses. C'est ce qu'on peut appeler l'auto-refoulement, c'est une ignorance délibérée, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Nous filtrons ce que nous ne voulons pas savoir parce que ça nous met trop mal à l'aise et nous présentons une vision du monde qui correspond aux intérêts des pouvoirs en place et des privilèges de nos classes privilégiées. Ce n'est pas une conspiration, c'est un processus normal. C'est comme ça que l'histoire fonctionne depuis le début.
Voilà donc le problème, et dit par Chomsky lui-même, pouvoir exprimer sa pensée ne garantit en rien que ce soit vraiment la sienne. Alors comment faire ? Eh bien c'est peut-être là que la théorie linguistique de Chomsky prend tout son sens avec son engagement politique. Dans les deux ouvrages qui viennent de paraître, L'optimisme contre le désespoir, qui est un livre d'entretien, et L'essai Requiem pour le rêve américain, Chomsky poursuit sa dénonciation de l'impérialisme américain et la manière dont se construit une pensée unique. Mais il veille aussi à distinguer la manière dont on est incité à parler sans non plus y être forcé. Être incité à parler d'une certaine manière ne nous y oblige pas. Comment alors prévenir la manipulation de notre langue et y mettre un peu plus de soi ? Eh bien avec la langue, justement, nous dit Chomsky, qui est créative, qui est à la fois barrière à l'impérialisme et garante de notre indépendance d'esprit, à défaut peut-être de traduire complètement ce que l'on est. Reste en tout cas toujours à l'imaginer, à la transformer, et pour cela, vous pouvez à la fois lire Chomsky, mais aussi l'écouter et le voir.
Inequality is really unprecedented. It's like the worst periods of American history. The effect of the concentration of wealth is to yield concentration of power. Not only is it extremely unjust in itself, inequality has highly negative consequences on the society as a whole. Because the very fact of inequality has a corrosive, harmful effect on democracy.
Et voilà, c'était un extrait du documentaire sur Noam Chomsky qui est diffusé sur Netflix, Requiem pour le rêve américain, qui se lit donc aussi aux éditions Climat. Et vous pouvez aussi lire bien sûr son livre d'entretien, c'est aux éditions Luxe.
Ça me fait penser au film Captain Fantastic, hein, où le père élève ses enfants loin de la civilisation et célèbre chaque année le Noam Chomsky Day.
Mais j'aurais adoré diffuser cet extrait, mais je ne l'ai pas trouvé.
Bon, bah une prochaine fois. En tout cas, regardez le film, il est génial. Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à Claire Perryman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Marianne Chassor, Maude Markiewicz, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Bouc réalise cette semaine, Élise Le qui est à la prise de son, Yvan Moran à la lecture des textes. Pour réécouter cette émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous trouverez les indications bibliographiques, cinématographiques et musicales concernant l'émission du jour. Mais vous pourrez aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. Chers auditeurs chanceux, demain vous retrouvez Géraldine Mosna-Safoua. C'est vous, Géraldine, qui serez au micro, enfin oui, c'est ça, du bon côté du micro, de celui qui pose les questions pour accueillir l'autre bon côté du micro, celui des invités.
Jean-Louis Chrétien.
Ce sera votre invité demain.
Pour son livre Fragilité qui est paru aux éditions de Minuit.
Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. D'ici demain, 10h, eh bien, une chose à faire, restez à l'écoute sur France Culture.